mars 2026, les élections municipales sur RMN.
Bonjour à toutes et à tous, émission spéciale élections municipales. Nous recevons en studio Benoît Apparu, maire sortant de Châlons-en-Champagne, candidat d'hiver droite avec la liste J'aime Châlons, pour revenir sur son bilan, les enjeux de cette campagne et ses priorités pour la ville. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors la première question va concerner l'écologie. Châlons s'est engagé dans une démarche zéro carbone. La canicule s'intensifie chaque année. Quelle est votre priorité 2026-2032?
Alors, peut-être un premier élément sur le bilan, puisqu'effectivement la différence avec les autres équipes qui se présentent au suffrage des électeurs, c'est que nous sommes sortants, donc nous avons un bilan. On a fait, pour lutter contre le changement climatique, deux grandes actions majeures. La première, c'est l'installation sur Châlons de ce qu'on appelle le RCU dans le jargon technocratique, à savoir un réseau de chaleur. Pour chauffer nos maisons, nos appartements, nos usines, nos bureaux, ici même par exemple, on a besoin de chaleur. Cette chaleur, il faut qu'elle soit la plus décarbonée possible. Donc ce que nous avons fait, c'est qu'on a installé un gros tuyau qui part de la Veuve et qui va jusqu'à Châlons. En utilisant l'incinérateur des ordures ménagères de la Veuve, qui produit mécaniquement de la chaleur, puisqu'il brûle nos ordures ménagères, cette chaleur, elle était perdue, elle chauffait les oiseaux, ce qui est sympathique pour les oiseaux et pour le bien-être animal, mais peut-être que ce n'est pas le but du jeu, et donc on a pris un tuyau pour récupérer la chaleur, on amène cette chaleur jusqu'à Châlons, et on a pu avec ça chauffer 75% des bâtiments publics, l'hôpital, la piscine, etc. Et en gros, l'équivalent de 10 000 appartements. Notamment tous les appartements des bailleurs sociaux de Châlons. Ça nous permet de faire deux choses. Un, de réduire notre empreinte carbone, parce qu'on a une chaleur dite fatale qu'on récupère et donc on n'utilise pas une autre source de chaleur principalement carbonée. Ça, c'est très positif. Et puis au passage, c'est pas neutre, ça nous permet de réduire les factures énergétiques payées par nos concitoyens. Ça a été le premier axe principal. Deuxième axe, le carbone, c'est des émissions de CO2 qui s'échappent dans l'air et qui réchauffent la planète. Il faut en limiter les émissions, mais il faut aussi regarder comment on peut capter ce carbone. C'est-à-dire qu'on peut limiter l'envoi de carbone dans l'atmosphère, mais on peut aussi essayer de récupérer du carbone qui est dans l'atmosphère. Pour ça, il y a un outil naturel très simple qui s'appelle la photosynthèse. On a tous appris ça au collège ou au primaire. C'est la séquestration du carbone par les arbres. Et donc, on a mis en place un vaste plan de plantation d'arbres. Il y avait à l'origine, en 2020, grosso modo 20 000 arbres sur Châlons. On en a fait 26 000 de plus, 26 000 arbres de plus qui ont été plantés entre 2020 et 2026. Et nos deux projets sont de continuer dans ces deux directions-là pour la suite. Un, de planter 20 000 arbres de plus encore. Et deux, de faire un deuxième réseau de chaleur pour effectivement prolonger grosso modo les tuyaux d'une dizaine de kilomètres. Et donc avoir là encore du chauffage décarboné dans les appartements, les maisons, les administrations ou les bureaux de Châlons.
Sur la sécurité à présent, la ville a beaucoup investi dans la vidéosurveillance HD, haute définition, par le projet Connect Châlons. Cependant, le sentiment d'insécurité persiste. C'est ce qui est un petit peu l'interrogation sur les réseaux sociaux des Châlonnais et des Châlonnaises. Quelle sera votre doctrine?
Alors, je ne vais pas me battre sur les questions de sécurité, insécurité ou sentiment d'eux. À partir du moment où la perception est là, mais il faut qu'on la prenne en compte. Quand on regarde les réalités statistiques publiées par le ministère de l'Intérieur, ils ont une quinzaine d'items, cambriolage, vol de voiture, etc., etc. Quand on regarde ces items-là, c'est partagé. Il y a 6 items sur les 15 en hausse, et puis il y a 9 items qui sont soit en baisse, soit en stabilité. Donc, la réalité statistique nous montre quelque chose d'ambivalent. Ça ne se dégrade pas, mais ça ne s'améliore pas massivement. Donc on a un résultat qu'on va qualifier de moyen. Ce n'est pas satisfaisant. Et donc, on va continuer à investir dans la sécurité. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a en permanence 4 équipes de police municipale qui circulent dans Chalon, à pied ou en voiture. On veut en mettre 2 de plus pour mieux couvrir le territoire, aussi bien sur l'ensemble du territoire, le centre-ville, les quartiers, que sur les horaires. Pour l'instant, on fait peut-être pas suffisamment tard le soir. Donc 2 équipes de plus en permanence pour porter au total à 6 équipes de plus. Premier point. Deuxième point sur les caméras. Aujourd'hui, système de caméras, c'est très compliqué. On a en gros une 100aine de caméras de la ville qui nous offrent 198 vues parce qu'elles peuvent tourner, prendre plusieurs points. Il y a des caméras de Nova Habitat, le bailleur social. Il y a des caméras des bus. Il y a des caméras de la préfecture. Bon. On a donc ces 583 caméras sur le territoire chalonnais. 100 qui appartiennent à la ville, qui ont 200 vues. Bon. Ces 100 caméras-là sont reliées à ce qu'on appelle le centre de supervision urbain. C'est ce qui permet notamment Connect Chalon. Ça veut dire quoi ? Ben qu'on a des agents, en plus des policiers municipaux bien sûr, qui regardent en permanence les caméras en question pour voir ce qui s'y passe. Par contre, les caméras de Nova Habitat ne sont pas branchées là-dessus. Ce sont des caméras qui ne sont utilisées que s'il y a un pépin dans un immeuble, où on va les pouvoir, une semaine après, faire une extraction de la caméra pour voir quel était le problème. Autrement dit, on n'a pas une surveillance en continu. Ce qu'on veut, c'est brancher ces caméras-là sur le centre de supervision urbain pour qu'on ait des gens derrière les caméras qui regardent en permanence sur les 500 caméras dont on parle ce qui se passe. Et comme évidemment, ce sera très compliqué pour des humains, pour vous, pour moi, de regarder les 580 caméras en même temps, ça devient un peu complexe à faire, on va évidemment céder de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui a la capacité technique de repérer les situations d'urgence pour alerter les agents qui sont derrière devant les caméras, qui les regardent, que là, il y a un souci à tel ou tel endroit. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il faut qu'on ait toutes nos caméras, les nôtres et celles dont on n'est pas propriétaire, qui soient reliées pour qu'on ait une information en alerte en permanence. Enfin, troisième, parce qu'il y en a d'autres encore, mais autre élément, on souhaite installer des bornes dans les espaces publics. En gros, c'est une borne d'appel. Je vois une situation dangereuse où je subis un risque, j'appuie dessus, ça prévient automatiquement la police. Ça, c'est quelque chose pour la rapidité de la réponse. Et puis, dernier élément, nous avons signé avec la procureure de la République il n'y a pas très longtemps une convention pour faire ce qu'on appelle des rappels à l'ordre. Il y a des petites incivilités qui ne seront pas poursuivies par la procureure devant la justice. En gros, quand un gamin fout un coup de bombe sur un mur ou fait un petit dépôt sauvage quelque part, ça finira pas en procès, évidemment. Par contre, c'est dommage de laisser ce petit délit impuni. Et donc, notre idée, c'est de faire ce qu'on appelle des rappels à l'ordre, c'est-à-dire une commission d'autorité à la mairie, en présence de la police, d'un adjoint au maire, tout le monde en position sérieuse, hein, c'est-à-dire, en gros, l'écharpe tricolore et l'uniforme pour le policier, pour, de façon solennelle, dire aux jeunes et à ses parents, là, vous avez commis une faute, ben, il faudra la réparer. Et pour la réparation, on va signer une nouvelle convention avec la procureure pour mettre en place ce qu'on appelle les TIG dans nos services, les travaux d'intérêt généraux, pour que la personne qui a commis quelque chose prenne le pinceau pendant quelques heures pour effectivement réparer ses bêtises.
L'avenir des villes moyennes, on va parler indépendance et budget, avec le budget 2026 qui est marqué par une forte pression de l'État sur les collectivités locales. Dans ce contexte, comment comptez-vous préserver l'autonomie de Chalon face à Reims ? Et puis précisément, comment allez-vous maintenir un niveau de service public de proximité dans l'éventualité où la fiscalité locale ne serait pas augmentée ?
Alors, je ne partage pas l'analyse première que vous venez de faire. Ce n'est pas la vôtre, c'est celle de la plupart des collectivités locales qui tirent la sonnette d'alarme en disant « l'État ne nous donne pas assez de sous ». Vous faites beaucoup d'émissions de radio, j'imagine que vous recevez beaucoup de monde, et j'imagine que tous les corps intermédiaires doivent vous dire la même chose. L'hôpital a besoin de plus de sous, les milieux sportifs ont besoin de plus de sous, les parents qui ont un enfant autiste ont besoin d'un meilleur accompagnement à l'école. Je ne connais aucune catégorie qui ne dise pas « j'en ai pas assez ». Tout le monde considère qu'il n'a pas assez d'argent. Et tout le monde se retourne vers la même personne pour lui demander de l'argent. « Bonjour, monsieur l'État, faites-moi un chèque. » C'est de mon point de vue, de la part des mairies notamment, je le dis peut-être de façon un peu cash, irresponsable. On est tous collectivement responsables de la dette qu'on va faire supporter à nos enfants. Pour avoir l'image en tête quand même, aujourd'hui, il y a pour l'État une dépense sur quatre qui n'est pas payée par des recettes, les impôts, mais qui est payée par de la dette. Ça veut dire quoi concrètement ? Un salaire de policier sur quatre est payé par de la dette. Un salaire d'un militaire ou d'un professeur sur quatre est payé par de la dette. C'est pas sérieux, c'est pas bien, c'est pas pour des questions maastrichtiennes, c'est pour des questions de morale. Est-ce qu'il est moralement acceptable qu'on fasse payer, dans 10 ans, à vos enfants ou aux enfants de Chalon, les fonctionnaires qu'on utilise nous aujourd'hui ? C'est pas bien. Parce que dans 10 ans, ils auront eux aussi besoin de policiers, de professeurs pour éduquer leurs enfants. Et donc, je trouve que l'idée qui consiste à dire de la part des mairies, on n'a aucun effort à faire, il ne faut plus d'argent qui vienne de l'État, n'est pas bien et n'est pas responsable. On participe tous à la dépense publique, on doit tous participer aux économies, à Chalon comme ailleurs. Donc si l'État demain nous dit « vous devez participer aux efforts », eh bien on fera des efforts. C'est trop facile de dire à l'État « faites des économies pour plus avoir de déficit » et au passage, donner du pouce d'argent, totalement contradictoire comme propos, et puis nous dire « non, nous, on n'a pas d'économies à faire ». À Chalon, on a déjà fait des économies, parce qu'en 2015, il y a déjà eu ça fait par le gouvernement de François Hollande. Eh bien, on a pris notre part d'économies, on a fait des économies dans le fonctionnement de la mairie pour garder notre capacité d'investissement. Le résultat, il est très probant, très probant. Parce qu'en plus, ça marche et c'est positif. Quelle est la conséquence ? Chalon n'a pas augmenté ses impôts depuis 20 ans, contrairement à peu près toutes les mairies. On n'a pas profité de la suppression de la taxe d'habitation. Rappelons-nous quand même que l'État a fait un cadeau positif, hein, en baissant les impôts de tout le monde, en supprimant la taxe d'habitation. On n'a pas compensé ça par une augmentation de la taxe foncière. Et surtout, deux éléments positifs. Notre dette en 2014, 55 millions d'euros. Aujourd'hui, 34. Et notre capacité d'investissement, c'est-à-dire préparer l'avenir, s'est passée en gros en moyenne de 10 millions par an à 18. Ça veut dire quoi ? Quand on gère rigoureusement, sérieusement, qu'on fait vraiment des économies, par exemple sur l'électricité via le réseau de chaleur, par exemple avec Connect Chalon sur là aussi l'éclairage public, quand on fait des économies, eh ben c'est vertueux parce qu'on baisse notre dette et donc on a une meilleure capacité à investir. Et c'est ça le sérieux budgétaire, et on continuera dans la même direction.
L'attractivité à présent, Chalon-Champagne, ville moyenne, fait face au défi de retenir ses habitants et surtout d'en attirer des nouveaux. Selon votre analyse, quel est aujourd'hui le principal frein à l'attractivité de notre territoire et quel levier prioritaire comptez-vous actionner pour redonner durablement ou perdurer la vitalité à Chalon ?
Question très importante. Il faut s'inscrire dans un contexte peut-être un peu plus global. Le sujet le plus important pour Chalon dans les 20 ans qui viennent, c'est le sujet de la démographie. Et c'est le sujet le plus important depuis 40 ans. Parce que nous perdons des habitants. C'est valable pour tout le grand quart nord-est. Tout le grand quart nord-est français, la Picardie, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, tous ces territoires-là perdent des habitants. Pourquoi ? Parce que ce sont historiquement les territoires de l'industrie française. Et l'industrie française, vous le savez depuis 1975, tombe. Et aujourd'hui, vous avez une démographie positive, donc plus d'habitants sur la façade atlantique, sur le bassin méditerranéen, sur le bassin rhodanien, autour de Lyon, hein, entre Lyon et Marseille, on va dire, et puis sur l'île de France. Le reste, ça chute. Si vous prenez les statistiques, toutes les villes de Champagne-Ardenne, Charleville, Reims, Rethel, Chalon bien sûr, Épernay, Vitry, etc. Tout le monde chute en démographie. C'est ça notre enjeu particulier et notre spécificité dans ce grand quart nord-est. Et donc on doit effectivement être plus attractif que nous ne le sommes aujourd'hui si on souhaite à minima stabiliser la fuite et puis essayer de progresser sur le plan démographique. Pour ça, on estime nous qu'on a besoin peut-être d'avoir une identité beaucoup plus forte que celle que nous avons aujourd'hui, d'être mieux connu à l'extérieur. Quand vous parlez de Châlons-en-Champagne à Bordeaux, quand vous parlez de Châlons-en-Champagne à Marseille, ou quand vous parlez de Châlons-en-Champagne à Poitiers, peu importe où d'ailleurs en France, je ne suis pas sûr qu'on ait une image très claire. C'est quoi Châlons ? Ah ouais, c'est peut-être Châlons-sur-Saône, c'est Châlons-sur-Marne, parce qu'on n'est pas assez connu de l'extérieur. Parce qu'on n'a pas de produits suffisamment attractifs pour attirer du monde. Et c'est la raison pour laquelle on veut devenir la capitale du cirque, pour avoir ce produit culturel connu en France entière, et qu'on se dise, mais oui, Châlons, bien sûr, c'est la capitale du cirque, c'est la ville où il se passe plein de choses sur le cirque. De la même façon qu'on connaît Angoulême, parce que c'est la BD. Qu'on connaît Arles, parce que c'est la photo. Qu'on connaît Avignon pour son festival de théâtre. Et donc, on veut un peu la même chose. Châlons, c'est le cirque. Et puis, un deuxième pilier, Châlons, c'est le Champagne. Les villes de Champagne, c'est principalement Épernay et Reims. On ne les concurrencera pas, on ne les rattrapera pas. Parce qu'ils ont de la vigne tout autour, qu'ils ont 50 maisons de Champagne dans leur ville. Ce ne sera pas notre cas, on n'a pas de vigne autour. Mais on doit pouvoir devenir une destination Champagne beaucoup plus forte. On a un gros projet, Avenue de Paris, Rive Gauche, qui nous permettra de réhabiliter profondément la Rive Gauche. Et puis d'installer à côté de chez Joseph Perrier, qui a renouvelé complètement sa cave, qui a fait, je ne sais pas si vous l'avez visité, mais qui a fait quelque chose de merveilleux dans sa cave, mais pas très loin. Il y a les anciennes caves de Laurent Perrier. En sous-sol, il y a les caves. On va les récupérer pour faire un produit touristique type son et lumière, un peu comme dans les Baux de Provence, carrière de lumière. Et puis au-dessus, sur le terrain, raser grosso modo tout ce qui n'est pas des bâtiments remarquables, parce qu'il y a quelques très beaux bâtiments, raser tout le reste et installer des coteaux de champagne pour que on ait cette visualisation du champagne sur Châlons. Une très belle maison avec Joseph Perrier, puis des vignes à côté, qui ne seront pas des vignes pour produire du champagne, puisqu'on n'est pas dans l'ère d'appellation, mais des vignes qui peuvent permettre de faire de la recherche, qui peuvent permettre de se balader dans les vignes, qui peuvent permettre de, peut-être, pourquoi pas, de produire du vin, non pas du champagne, hein, mais du vin, pourquoi pas produire du jus de raisin qu'on pourrait ensuite distribuer dans les écoles, bref, de mieux affirmer la présence du champagne à Châlons et de devenir une ville champagne. Pas à la hauteur de Reims ou d'Épernay, mais une ville du champagne quand même.
Alors, vous avez un petit peu dévancé ma dernière question.
J'en suis confus.
Qui était la politique culturelle et justement le rayonnement par rapport aux arts de la rue et au cirque et le patrimoine historique de la ville de Châlons et votre vision pour la politique culturelle des 6 prochaines années.
Alors, la ville de Châlons, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, investit beaucoup sur la culture, plus que les villes de notre taille. Et il faut continuer comme ça, parce que la culture est un élément de rayonnement. Et nous, on veut avoir une approche pluridisciplinaire, comme on dit, de la culture. On veut du théâtre, on veut de la danse, on veut de la musique, du jazz, de la musique classique et de la musique contemporaine. Et pour ça, on a un outil formidable qui s'appelle la Comète, et qui produit tout ça. Hors de question de changer ça. Bon. Deux, on a un super conservatoire. 800 gamins inscrits au conservatoire. 800 personnes, pardon, il n'y a pas que des gamins. 800 personnes inscrites au conservatoire. C'est beaucoup au regard de la taille de la ville de Châlons. Et puis, on a ce projet majeur autour du cirque, qui est un projet qui a finalement une double vocation. Vocation numéro 1, c'est ce que j'évoquais avant, le rayonnement, l'attractivité, le tourisme pour la ville. Et puis, deuxième élément, c'est offrir aux Châlonnaises et aux Châlonnais du rêve, offrir une capacité à se projeter dans le monde du cirque en ayant peut-être plus de spectacles et surtout des spectacles peut-être plus populaires, des spectacles peut-être plus grandioses, des spectacles plus spectaculaires pour attirer beaucoup de monde. Et puis à côté de ça, développer ce qu'on appelle une école de cirque amateur. Vous en avez une au Mans, 800 gamins inscrits à l'école. Il y en a une pas très loin à Montigny-les-Metz, 400 gamins inscrits à l'école amateur. À Châlons, on en a une petite, une centaine de gamins, mais il faut qu'on monte à 400, 500 gamins inscrits pour que les jeunes Châlonnaises et les jeunes Châlonnais s'initient à cette pratique culturelle, qui est une pratique doublement intéressante parce qu'elle a une approche culturelle, mais elle a aussi une approche physique, presque sportive, pour les enfants. Et quelque part, c'est une discipline qui peut parfaitement mêler le sport et la culture. Il faut que nos gamins se dépensent, il faut qu'ils fassent du sport, mais il faut aussi qu'ils aient une pratique culturelle. Et le cirque permet de mêler les deux, raison pour laquelle on veut faire cette école amateur. Et puis au passage, se dire que le cirque est aussi un vecteur de socialisation pour des publics fragiles. Il y a des expériences qui sont menées auprès des personnes âgées pour leur redonner de la motricité. Et le cirque, de ce point de vue-là, permet de développer la motricité. De la même façon, on a des pratiques pour les jeunes en situation de handicap. Au travers du cirque, comment on les remet dans le circuit, entre guillemets, comment on a une politique inclusive autour de ça. Et donc vraiment, pour nous, c'est ce projet global du cirque. On a la meilleure école du monde avec Montréal. C'est le seul outil de rayonnement international que nous avons avec l'école de cirque qui est déjà installée à Chalon. Je le rappelle, hein, l'une des deux meilleures écoles au monde. Avec ça, on peut rayonner. On va développer un musée pour raconter l'histoire du cirque. On va développer un lieu pour produire du cirque. Parce que quand vous avez un spectacle, ben, il faut le répéter, il faut le travailler, il faut s'entraîner. Donc il y a besoin d'un lieu pour faire ça. Ça va être le même bâtiment que le musée. Et puis, il y a cette dimension beaucoup plus populaire, de spectacles plus populaires et de cette école de cirque amateur pour nous permettre de faire goûter tous les enfants chalonnais à ce qu'est le cirque.
Merci beaucoup, Monsieur Benoît Paruche.
Merci à vous.
Mars 2026, les élections municipales sur RMN.